DW. Le journal. Carole Assignon.
Il est 17h en temps universel, 19h en Allemagne. Nous sommes le mercredi 24 avril 2024. Au sommaire de cette édition, les relations qui semblent de plus en plus tendues entre les militaires au pouvoir et la classe politique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Des tensions qui s'accentuent surtout quand il s'agit de rendre le pouvoir aux civils. Réaction et décryptage dans un instant. Dans ce journal, nous irons aussi en RDC où les derniers soldats de la MONUSCO sont en train de quitter le Sud Kivu, en retrait marqué par des formations des forces armées congolaises. À suivre également l'incompréhension et la colère des habitants du nord du Tchad qui ont le sentiment d'être oubliés par les candidats à l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Et puis le rapport annuel 2023 d'Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde. L'ONG déplore une érosion de ses droits. Voilà pour le programme, mais avant de développer ses titres, c'est d'abord le Flash Info avec Marco Voltaire. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, il ne manquait plus que sa signature. Le président américain a promulgué le plan d'aide militaire à l'Ukraine voté par le Congrès. Joe Biden assure qu'il va renforcer la sécurité de l'Amérique et la sécurité du monde. Il s'agit de plus de 61 milliards de dollars pour financer l'effort de guerre ukrainien contre l'invasion russe.
Et de l'équipement militaire doit être envoyé dans les prochaines heures selon Joe Biden.
Oui, il assure que les États-Unis ne s'inclineront pas devant Vladimir Poutine. L'assistance militaire américaine était interrompue depuis plusieurs semaines, faute de financement, bloquée depuis des mois par une partie des républicains au Congrès. Le chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky, a exprimé sa reconnaissance. Il parle d'une aide vitale pour son pays. Le Kremlin a également réagi, assuré que les nouvelles livraisons d'armes ne changeront rien sur le front. Enfin, cette signature à Washington ne trouve un écho aujourd'hui à Berlin, où le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, en visite. Et le chancelier Olaf Scholz ont promis un soutien militaire inébranlable à l'Ukraine. Olaf Scholz continue toutefois de s'opposer à la livraison de missiles longue portée à Kiev.
Le président américain demande également à Israël de permettre la livraison d'aide humanitaire à Gaza.
Oui, et ce alors que l'enveloppe votée au Congrès comprend également de l'aide militaire à Israël, mais aussi de l'aide humanitaire pour l'enclave palestinienne, avec de la nourriture, des médicaments et de l'eau potable. De son côté, l'armée israélienne dit mener aujourd'hui une action offensive dans le sud du Liban à travers des bombes bombardements et des tirs d'artillerie. L'armée israélienne affirme avoir frappé des dizaines de cibles du Hezbollah libanais et tué la moitié de ses commandants dans ce secteur.
En Iran, un célèbre artiste vient d'être condamné à mort.
Un rappeur de 33 ans, très connu en Iran et qui était en prison depuis plus d'un an, et il écope de la peine capitale, et ce pour avoir soutenu en 2022 le mouvement de contestation déclenché après la mort de Mahsa Amini. Tomaj Salehi, c'est son nom, il est condamné par un tribunal pour, je cite, « corruption sur terre », qui est l'un des chefs d'accusation les plus graves en Iran. Avec ses chansons, il avait soutenu le mouvement pour les droits des femmes qui avait embrasé le pays.
154 millions, c'est le nombre de vies que les vaccins ont permis de sauver dans le monde ces 50 dernières années.
Oui, c'est ce qu'affirme une étude de l'Organisation mondiale de la santé, soit 6 vies sauvées chaque minute. L'étude porte sur la vaccination contre 14 maladies, dont la diphtérie, l'hépatite B, la rougeole, la coqueluche, le tétanos, ou encore la fièvre jaune. Ces vaccins ont contribué à réduire la mortalité infantile de 40% dans le monde et de plus de 50% en Afrique, selon l'OMS.
TikTok essuie des critiques de toutes parts.
D'abord en Europe, le réseau social chinois est accusé de créer de l'addiction, et ce à travers une nouvelle fonction qui récompense les utilisateurs pour leurs interactions et pour leur temps passé sur la nouvelle application TikTok Lite. L'UE y voit aussi un risque grave pour la santé mentale des utilisateurs. TikTok a réagi et a annoncé suspendre volontairement cette fonction TikTok Lite. En attendant, Bruxelles entend poursuivre ses enquêtes sur les risques d'addiction que pourrait présenter ce réseau.
Et pour finir, aux États-Unis, TikTok veut entrer dans un bras de fer judiciaire.
L'entreprise a été sommée par le Congrès, en effet, de se séparer d'ici un an ou plus tard de sa maison mère chinoise ByteDance, pour cause de soupçons d'espionnage et de manipulation des utilisateurs aux États-Unis. Autrement, TikTok ne sera plus autorisé sur les boutiques d'applications des smartphones sur le territoire américain. Du coup, le patron du réseau social a promis à ses utilisateurs de se battre contre cet ultimatum dans les tribunaux.
Affaire à suivre donc. Merci Marco Voltaire. Il est 17h et bientôt 5 minutes en temps universel.
DW.
Mali, Burkina Faso, Guinée, les relations sont de plus en plus tendues dans ces pays entre les militaires au pouvoir et la classe politique. Quant à la société civile, après avoir accueilli plutôt favorablement les putschistes, elle semble être en train de réaliser ce que signifie la répression sous un régime militaire qui n'admet pas les critiques. Plusieurs personnalités politiques et des acteurs de la société civile ont ainsi été emprisonnés. Le point avec Georges Ibrahim Tunkara.
Au Mali, la liste des personnalités arrêtées pour avoir dénoncé la gestion de la transition militaire est longue. L'activiste et artiste Ras Bat est en prison depuis plus d'un an. Également derrière les barreaux, Adama Ben Diarra, alias Ben Le Cerveau, la blogueuse Rokia Doumbia ou encore l'économiste Étienne Fakaba. Omar Mariko, le président du parti politique Le Sadi, a lui préféré s'exiler tout comme l'influent imam Mahmoud Diko. Les militaires ne veulent pas qu'on leur rappelle qu'ils s'étaient engagés à organiser des élections en février 2024 et qu'il est temps que la transition prenne fin. Amidou Doumbia, secrétaire politique du parti Yelema.
Nous n'avons pas soutenu le coup d'État en 2020. Nous l'avons condamné. On a décidé tous de travailler ensemble pour sortir de là rapidement. Ce qui est tout simplement à reprocher, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur la sortie de cette période. Et une transition n'est que transitoire. Elle ne peut pas se prolonger indéfiniment.
Le 10 avril dernier, les militaires ont annoncé la suspension des activités des partis politiques qui leur rappelaient que la transition a pris fin le 26 mars 2024. En Guinée, où le fraîchement promu général Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir après avoir renversé le président Alpha Condé en septembre 2021, la fronde est également grande en dépit de la nomination en février dernier d'un nouveau premier ministre, Bahouri, une des grandes figures de l'opposition. L'opposition demande l'organisation des élections avant le 31 décembre prochain, faute de quoi elle affirme qu'elle ne reconnaîtra plus le pouvoir militaire. Au Burkina Faso, la fronde est moindre, mais cela s'explique par la peur de la répression, car les voix discordantes ne sont pas tolérées. Des hommes politiques et des acteurs de la société civile ont été réquisitionnés et envoyés au front pour combattre les djihadistes. Guy Olivier Ouédraogo, secrétaire général de la Confédération syndicale du Burkina.
Il faut se dire que nous sommes sous un régime militaire, avec tout ce que ça comporte comme relais d'obéissance aux ordres et autres. Aujourd'hui, bon, chacun se méfie et ne prend pas la parole comme il le veut et autres.
Pourquoi le fossé se creuse-t-il entre les militaires et la classe politique dans les différents pays en transition ? Guy Olivier Ouédraogo de la Confédération syndicale du Burkina.
La lecture que nous faisons de l'action des militaires présentement semble prouver effectivement qu'ils sont dans une logique de conservation du pouvoir. Vous le savez très bien, un parti politique se crée avant tout pour la conquête du pouvoir. C'est peut-être cela qui peut amener à une quelconque division.
Et face à cette transition militaire qui perdure, la CEDEAO se montre impuissante et se fait de plus en plus discrète. Après avoir menacé d'intervenir au Niger, autre pays sous transition militaire, elle est revenue sur sa décision. Elle a même levé le blocus économique qui touchait le pays. Il est temps d'en finir avec ces transitions pour s'attaquer aux problèmes sociaux, estime ainsi Amidou Doumbia du parti Yelema.
Les explications de Georges Ibrahim Tunkara. Et nouvelle illustration de la pression qu'exercent les militaires au Niger. Les autorités putschistes qui dirigent le pays ont récemment dissous les maires et les conseillers municipaux pour les remplacer par des militaires. Les 105 administrateurs délégués sur les 266 communes que compte le Niger nommés par le ministre de l'Intérieur, Mohamed Toumba, sont donc pour la plupart des militaires. Mais pour ces Nigériens rencontrés par notre correspondante Maïmouna Diallo dans l'arrondissement communal Niamey 3, eh bien les militaires nommés devront d'abord faire leurs preuves. On les écoute.
Ils doivent travailler avec les populations, surtout dans la lutte contre le terrorisme. Il faut une approche plus ouverte qui impliquerait davantage les citoyens. Il ne faut pas venir avec la fougue militaire de croire qu'on saura tout résoudre sans l'aide des personnes.
Avec les administrateurs délégués, pensons que les choses vont changer. Les gens vont voir la différence entre les administrateurs délégués et les maires élus sur les bannières des partis politiques.
Nous sommes dans une période de pluvieuse qu'ils commencent à travailler plutôt sur les infrastructures routière. Tout le monde sait qu'ici à Niamey, il y a beaucoup de voies qui sont pratiquement difficiles à prendre pendant les saisons pluvieuses.
Réaction de Nigérien à Niamey, des propos recueillis par Maïmouna Diallo. Toujours au Niger, 5 soldats chargés de protéger un programme de développement agricole ont été blessés dans une embuscade attribuée au groupe armé Boko Haram dans le sud-est du pays, proche du Nigeria, selon les autorités locales. Le 11 avril, 6 soldats nigériens avaient été tués par une bombe dans la zone d'Inates, près du Mali, toujours selon l'armée, qui a affirmé avoir neutralisé dans la foulée au moins une dizaine de terroristes dans des frappes aériennes des deux côtés de la frontière. Entre l'Europe et le Sénégal, la coopération est dense, mais ensemble, nous voulons un partenariat repensé, rénové. Il s'agit d'une déclaration conjointe du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, du président du Conseil européen Charles Michel, en visite au Sénégal. Et sur les réseaux sociaux, eh bien, ces propos ont fait réagir Elio Kobakin.
Peut-on vraiment repenser le partenariat Afrique-Europe, Sénégal-Europe? Alors que l'Europe a déjà un programme pour l'Afrique, se demande Noah qui commente depuis Accra sur notre page Facebook. En revenant sur les propos tenus par le président sénégalais, Leuze précise qu'il y a une grande différence entre vouloir et pouvoir. Pour Hamoud du Niger, il est clair que rien ne sera plus comme avant dans les relations entre le Sénégal et l'Europe. Jean au Cameroun ne croit pas un seul instant aux propos de Bassirou Diomaye Faye. Selon lui, c'est de la comédie. Sur X, ancien Twitter, Madina souligne qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Pour elle, le système du fonctionnariat ne sait pas travailler autrement que par les directives et les canevas des bailleurs. Pour mieux faire, selon la Twitter, il faut s'adosser sur des institutions financières indépendantes des bailleurs. Toujours sur X, selon Tiao, son pays, le Sénégal, serait au centre du monde. Nous avons le pétrole, le gaz, les ressources humaines, tout le monde a besoin de nous. Alors c'est vraiment le moment de décoller, conseille l'internaute. Et enfin, Lawson au Togo recommande aux Sénégalais de ne pas se laisser berner. Il préconise l'autodétermination du Sénégal en modifiant tous les accords de partenariat pour les transformer en une coopération qui profite à tout le monde.
Et je rappelle que Bassirou Diomaye Faye avait promis dans son programme de rétablir une souveraineté bradée selon lui à l'étranger. Il souhaite notamment renégocier des contrats gaziers et pétroliers ainsi que les accords de pêche signés avec l'Union européenne.
Écoutez-nous sur internet dw.com/français.
En République démocratique du Congo, tandis que les combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise soutenue par des milices armées continuent de fragmenter le Nord Kivu, les derniers soldats de la MONUSCO sont en train de quitter le Sud Kivu. Et pour bien préparer ce retrait, les casques bleus se sont improvisés instructeurs pour les forces armées de la RDC, notamment dans les hauts plateaux à Mikenge, où notre correspondant Paul Lorgerie s'est rendu.
La scène a tout d'une vraie offensive et pourtant, sous le regard des casques bleus du contingent pakistanais, une vingtaine de fardés s'écourent, roulent, montent à l'assaut et imitent le bruit des kalachnikovs sur la colline du village de Mikenge. D'ici la fin du mois, ils reprendront les rênes de la base de la MONUSCO installée depuis 2020 pour protéger les personnes qui ont fui les violences chroniques dans la région. Et pour le major Jawad, commandant pakistanais de la base opérationnelle temporaire de Mikenge, il est donc grand temps de mettre en place les derniers ajustements, leur mission ici ne pouvant dépasser le 30 avril.
Nous sommes censés fermer cette base opérationnelle temporaire très bientôt et à cette fin, nous entraînons les FARDC depuis près de 15 jours maintenant. Nous les entraînons aux techniques de combat de base, aux précautions de sécurité ainsi qu'à comment interagir avec les locaux. Mais étant donné qu'ils sont congolais, ils sont déjà bien ancrés dans la culture locale.
Car malgré la présence des groupes armés d'autodéfense Banyamulenge, souvent considérés comme des étrangers et souvent en conflit avec des communautés locales comme des Babembe, le major congolais Jonas Baraka assure qu'il n'y a aucune raison que les violences reviennent dans le secteur.
Maintenant, les Pakistanais y ajoutent quelque chose pour nos militaires. Comment ils peuvent sécuriser la population civile après leur départ, c'est ça. Il y a des groupes armés, mais nous sommes capables d'intervenir dans tous les cas.
Une force de réaction rapide, donc censée pouvoir intervenir au moindre coup de feu. Car si la MONUSCO part, elle ne laisse pas d'enclave vide. Les militaires dans les zones occupées par des groupes armés et la police pour les régions apaisées doivent prendre la relève. Mais le modèle aura-t-il ses limites? Selon une source proche de la police de Kamanyola, ville à la frontière rwandaise où la base de la MONUSCO a été transférée à la police fin février, eh bien les policiers ne disposent pas de rations ni d'essence pour effectuer leur mission et les premiers signes de découragement commenceraient déjà à poindre. Paul Lorgerie, de retour du Sud Kivu pour la Deutsche Welle.
Et on reste en République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Uele, dans le nord-est du pays. Des éléphants en provenance du parc de la Garamba détruisent depuis quelques jours les champs des populations riveraines du parc, ce qui engendre des problèmes de sécurité. Les explications de Wendy Bashi.
Frédéric Tati Miri, le président de la société civile du territoire de Ouassa, dans le Haut-Uele, ne cache pas son inquiétude. Il explique que les pachydermes détruisent les cultures des populations. Il demande de l'aide aux autorités parce que ces éléphants sont, selon lui, une menace pour les populations et leurs champs.
C'est une réelle difficulté pour ceux qui pratiquent l'agriculture parce que toutes leurs cultures sont détruites. Ils ne pourront pas bénéficier de leurs récoltes. C'est pour cette raison que nous demandons aux autorités de se pencher sur ce dossier et voir ce qui peut être fait pour dégager ces pachydèmes et permettre aux populations de vaquer à leurs occupations.
Paulin Chikaya est directeur technique et scientifique à l'Institut congolais de conservation de la nature. Il a travaillé au parc de la Garamba et précise que cette situation n'a rien de nouveau.
Chaque année, quand il y a la saison des mangues, les éléphants quittent la forêt pour venir spécifiquement consommer les mangues. Et ce que nous faisons, c'est toujours envoyer des équipes de sensibilisation parce que ce sont des troupeaux d'éléphants et on ne peut pas prendre d'autres mesures de les chasser. Et tout le monde sait qu'après un ou deux mois, ils doivent retourner encore dans le parc. La seule chose que nous faisons, c'est de donner des conseils aux communautés de ne pas approcher les troupeaux, de ne pas les déranger.
Comment donc arriver à une meilleure cohabitation entre les humains et les éléphants ? Pour Corneille Ewango, professeur à l'université de Kisangani et spécialiste en biologie de conservation et en biodiversité, il est impératif de comprendre ces animaux.
L'éléphant ou d'autres animaux, ils passent et repassent dans leurs traces. Et ils trouvent que c'est leur terroir, ils peuvent faire la transmance là où il y a disponibilité de nourriture. Ce que les communautés doivent savoir, qu'ils doivent s'organiser, l'agriculture doit se faire de manière regroupée qui leur permettrait d'assurer la protection des cultures. Le parc a ses limites que nous devons respecter, mais les animaux ne voient pas ces limites-là.
Corneille Ewango insiste sur le fait que cette situation n'est pas particulière à la Garamba. Pour lui, les animaux, tout comme les humains, ont le droit à la vie et nécessitent d'être protégés.
Wendy Bashi, en bref, à présent, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture alerte sur le fait que l'Afrique australe est menacée par une pénurie de céréales en raison de la grave sécheresse due principalement au phénomène climatique El Niño. Selon l'ONU, le déficit de production attendu, notamment pour le maïs, devrait intensifier l'insécurité alimentaire, faire grimper les prix et augmenter les besoins d'importation dans la région. Le maïs représente près de 20% de l'apport en calories consommé dans les pays de la zone Afrique australe. Et l'insécurité alimentaire aiguë qui a touché 16 millions de personnes dans la région au cours des trois premiers mois de l'année pourrait encore s'aggraver. Donc, rendons-nous à présent au Tchad où la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 6 mai prochain se poursuit. 10 jours après le démarrage de cette campagne, les 10 candidats en lice ne se sont pas encore déplacés dans le nord où leur sécurité n'est pas assurée. Ce qui suscite la colère des habitants de cette région qui ont le sentiment d'être abandonné. N'Djamena, la capitale tchadienne, les explications de Blaise Daruston, notre correspondant sur place.
L'éloignement de ces provinces désertiques du nord et l'insécurité qui y règne en raison de la présence des groupes armés expliquent l'absence des candidats en campagne. Il est vrai que l'État tchadien ne contrôle pas complètement cette partie du pays, mais pour ceux qui y habitent, cette absence est vécue comme un manque de considération des leaders politiques envers les Tchadiens de l'extrême nord. Ce c'est qu'explique Younous Ali, un commerçant joint à Miski dans la province du Tibesti.
C'est une élection qui concerne tous les Tchadiens, donc la campagne doit se dérouler sur l'ensemble du pays, car le président qui sera élu sera le président de tous les Tchadiens. Malheureusement, ici, nous sommes négligés. Personne ne vient nous expliquer pourquoi on doit voter, ni demander ce qu'on veut ou quelles sont nos préoccupations.
Un avis que partage la jeune Mariam Khadija, jointe elle aussi dans la ville de Miski.
L'élection dont vous parlez, moi je pense que ça ne nous concerne pas. Personne n'est venu nous recenser ici et donc c'est pour ça qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'électeurs à Miski. Voilà, donc cette campagne ne nous concerne pas.
Pour le docteur Didi Ali Sougoudi, natif du Nord, il est important pour ces candidats d'aller parler aux habitants de cette région.
C'est une région un peu reculée, il faut des moyens, il faut de la logistique. Les gens n'ont pas l'audace. Il y a des candidats qui ne viennent pas au Nord. Et c'est aussi une erreur aussi de croire que le Nord c'est peu peuplé. Beaucoup de candidats jugent que le Nord étant peu peuplé, ça ne joue pas sur la balance de l'élection. Ils pensent comme ça. Mais il faut aller glaner chaque voix, il faut convaincre chaque électeur, case par case.
L'extrême nord du Tchad est réputé être une zone de non-droit où sont présents des groupes rebelles et des narcotrafiquants venus de la Libye, du Niger ou du Soudan. Une région septentrionale qui continue à échapper partiellement à l'emprise de l'État central. Blaise Dariston Ndiamena pour la Deutsche Welle.
Information en bref, les régulateurs africains des médias et ceux des pays francophones se sont engagés aujourd'hui avec plusieurs grandes plateformes à renforcer leur dialogue pour la protection de leurs utilisateurs. C'était lors d'une conférence à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et parmi les objectifs fixés figure la protection des utilisateurs, en particulier mineurs, la diversité des contenus et encore l'élaboration de codes de bonne conduite. Notez que parallèlement, Meta, X et TikTok ont signé un protocole d'engagement volontaire concrétisant cette dynamique également soutenue par Google.
DW. Le monde à votre portée.
Je vous en parlais dans le sommaire, le rapport annuel 2023 d'Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde est sombre. L'ONG déplore une érosion de ses droits, notamment du droit de manifester. Amnesty International s'inquiète également de l'introduction de l'intelligence artificielle dans les systèmes de surveillance de masse. Sandrine Blanchard.
Amnesty International a relevé l'année dernière un niveau de violation des droits humains sans précédent, à Gaza et en Ukraine notamment. 2023 a été aussi une année particulièrement meurtrière pour les journalistes et les travailleurs humanitaires. La secrétaire générale de l'ONG a fait part de ses inquiétudes lors de la présentation du rapport à la presse à Londres. Agnès Callamard condamne également l'adoption par le Parlement britannique de la loi qui permettra des expulsions de demandeurs d'asile vers le Rwanda.
Nous sommes absolument bouleversés par la décision prise hier au Royaume-Uni. La loi concernant le Rwanda est une loi honteuse. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher son application.
Autre point soulevé par Amnesty International, la dangerosité potentielle des nouvelles technologies quand celles-ci sont utilisées à des fins répressives. L'absence de standards internationaux pour réglementer leur usage peut aussi, selon l'ONG, mettre en danger les libertés fondamentales. La France fait particulièrement mauvaise figure du point de vue d'Amnesty International avec son autorisation de la surveillance algorithmique des espaces publics pendant les Jeux Olympiques qui se tiendront cet été à Paris. Katia Roux, chargée de plaidoyer liberté chez Amnesty International France.
Et donc nous on craint très clairement que la loi JO et le fait d'introduire des exceptions à l'interdiction de ces technologies qui sont dangereuses constituent effectivement des étapes vers l'utilisation de technologies de surveillance de masse comme la reconnaissance faciale et toute identification biométrique.
Amnesty International craint que ces logiciels ne renforcent des discriminations systémiques de certains groupes de personnes, notamment par les forces de l'ordre. L'ONG note également un regain des discours de haine décomplexés. Elle appelle les pouvoirs publics à prendre conscience de l'impact des discours racistes et stigmatisants et les sociétés civiles à rester vigilantes pour la défense de leurs droits et libertés.
Sandrine Blanchard, et pour en savoir davantage sur la position d'Amnesty International sur les risques de dérive de la surveillance algorithmique, je vous renvoie au magazine Droits et Libertés de la semaine dernière, accessible sur notre site dw.com/français ou sur les plateformes de podcast. Par ailleurs, plusieurs ONG de défense des droits humains, dont Amnesty International, dénoncent l'impunité des forces de l'ordre au Kenya. L'année dernière, 118 personnes auraient été tuées dans le pays pays par des policiers. Au sujet du Kenya, encore noté que les négociations entre le gouvernement et les médecins hospitaliers en grève depuis 6 semaines ont échoué, selon le syndicat des praticiens qui annonce poursuivre son mouvement. Les 57 hôpitaux publics du pays voient leur activité ralentie depuis mi-mars. Un tribunal de Nairobi avait ordonné qu'un accord soit trouvé d'ici le 19 avril pour une reprise du travail. Les médecins hospitaliers réclament des revalorisations salariales et de meilleures conditions de travail. Au Kenya, encore 10 personnes ont péri et plusieurs autres étaient portées disparues ce mercredi dans la capitale Nairobi, où des quartiers ont été inondés après une nuit de pluie diluvienne. Un total de 60 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont été gravement touchées par les inondations soudaines et dévastatrices qui ont frappé la ville, selon les autorités du comté dans un communiqué, estimant que Nairobi était au bord d'une crise humanitaire. La montée des eaux a touché aussi bien les bidonvilles comme celui de Matare que certains quartiers huppés comme Runda, où se trouve le siège régional de l'ONU. Le Kenya est frappé ces dernières semaines par de fortes précipitations qui s'abattent sur l'Afrique de l'Est, où la saison des pluies s'est intensifiée par le phénomène climatique El Niño. L'agence humanitaire de l'ONU au Chad faisait état au 18 avril d'au moins 32 personnes ayant péri et plus de 40 000 déplacés dans le pays depuis le début de la saison des pluies en mars. On va retrouver à présent Aurélie Okubakin qui revient sur des déclarations du président américain Joe Biden qui ont fait réagir sur la toile. La semaine dernière, il a provoqué l'étonnement après avoir raconté que son oncle Ambrose Fingan avait été tué en Papouasie-Nouvelle-Guinée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Joe Biden a affirmé que le corps de cet oncle n'avait jamais été retrouvé parce qu'il y avait, je cite, beaucoup de cannibales dans cette région. Des propos que le premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée a qualifié de moment de confusion. Et sur nos plateformes, vous avez été nombreux à réagir. Alors que disent nos abonnés, Rélio Kobakin?
En effet, ces propos du président américain sont largement commentés sur les réseaux sociaux. Certains ironisent en se demandant s'il s'agit d'une anecdote et d'autres reviennent sur l'âge avancé de Joe Biden, qui serait une des raisons de ces propos. Sur notre page Facebook depuis le Mali, Youssouf ironise en comparant Joe Biden à Paul Biya, qui ont respectivement 81 et 91 ans. Pour l'internaute, Biden, vu son âge, fait, je cite, « mieux que Biya ». Pour Kuna au Burkina Faso, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Ses propos sont dus à son âge avancé. Toujours au Burkina Faso, Bazema estime que cela peut être compréhensible vu son âge et surtout la pression que l'on peut subir quand on est au sommet de l'État. Élisée, qui commente elle aussi depuis le Burkina Faso, pense que Joe Biden doit voir un psychologue. Et en parlant de médecin, Aboubakar au Mali conseille aux Américains d'enquêter impérativement sur l'état de santé de leur président. Pour finir, Joseph au Cameroun nous explique que peu de temps avant sa mort, sa grand-mère tenait parfois des propos incohérents. Pour notre abonné, c'était un signe que les ancêtres l'appelaient à les rejoindre et que son heure était arrivée.
Les réactions sur les réseaux sociaux avec Rélio Kobakin. Merci Rélio. En bref, en Tunisie, plus de 30 professeurs de droit ont réclamé ce mercredi la libération d'un groupe d'opposants arrêtés en 2023 en soulignant l'illégalité de leur maintien en détention au-delà de la limite des 14 mois prévus par la loi. Une quarantaine de personnes sont poursuivies en Tunisie pour complot contre la sûreté de l'État, dont 8 opposants au président Kais Saied, qui sont maintenus en détention préventive depuis leur arrestation en février 2023. Selon leurs avocats, ces 8 opposants auraient dû être remis en liberté les 18 et 19 avril dernier à l'expiration de la durée maximale de 14 mois de détention préventive prévue par la loi. Et dans un communiqué conjoint publié ce mercredi, 33 professeurs de droit dans des universités tunisiennes, dont 3 doyens de faculté, ont fait valoir, citant plusieurs cas ayant fait jurisprudence, que la libération des opposants détenus s'imposait en vertu de l'article 85 du Code pénal. 17h28 en temps universel, c'est l'heure pour vous de tester vos connaissances sur les programmes de DW Afrique. Et pour gagner, il vous suffit de répondre correctement à la question suivante. La question: de quel continent traite la plupart des émissions de la DW Afrique? Est-ce qu'il s'agit de l'Océanie, de l'Afrique ou de l'Europe? Notez que la date limite pour participer est fixée au 7 mai 2024. Et toutes les informations pour participer sont à retrouver sur notre site internet dw.com/français. On passe au sport.
DW. Le sport. Fiacre Ndaïra Guidje.
football, la 6e édition de la Coupe d'Asie des moins de 23 ans se poursuit au Qatar. Ces équipes prennent part à cette compétition dont la phase de groupe a pris fin hier. Les 8 équipes qualifiées pour la phase à élimination directe s'affrontent dès demain 25 avril. Fiacre Derakidje.
Le Qatar, pays hôte, fera face au Japon pour le coup d'envoi de cette phase à élimination directe. Pour atteindre les quarts de finale, le Japon a terminé deuxième derrière la Corée du Sud dans le groupe B. La Chine et les Émirats arabes unis ont quitté la compétition à l'issue du premier tour. Le sélectionneur chinois Cheng Yaodong estime qu'il était très difficile de se qualifier dans ce groupe très relevé de la compétition.
Nous avions les 2 meilleures équipes d'Asie dans notre groupe. Nous savions à quel point cela pouvait être difficile si nous voulions sortir du groupe. Mais j'avais demandé aux joueurs de ne jamais abandonner, peu importe l'adversaire en face. Je pense que nous avons joué notre football. C'était même face à de forts adversaires comme le Japon et la Corée du Sud. Si nous n'avions pas été dans ce groupe, nous aurions eu peut-être de meilleures chances de nous qualifier.
La Corée du Sud et l'Indonésie se croiseront également le même jour jeudi. Les 2 autres matchs des quarts de finale se tiendront le lendemain vendredi. L'Irak défiera le Vietnam à l'occasion du 2e match des quarts de finale de cette Coupe d'Asie des moins de 23 ans. Le Vietnam a pu se qualifier dans le groupe D derrière l'Ouzbékistan, tandis que l'Irak a dominé le groupe C accompagné de l'Arabie Saoudite. Enfin, le dernier match mettra aux prises justement l'Arabie Saoudite et l'Ouzbékistan. Il faut noter que les demi-finales se tiendront le 29 avril et la finale aura lieu au stade Al Rayyan, toujours au Qatar, le 3 juin prochain.